Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Jusqu'au 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance.
Et donc, aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Israël. Il y a 2000 ans, hein, il faut utiliser l'imagination. On va voir l'équipe de Jésus. On va voir comment Jésus fonctionnait, comment il allait de village en village et comment il faisait de l'évangélisation, d'accord? Pour moi, même si c'est il y a 2000 ans, on peut aussi retenir des leçons pour aujourd'hui, parce que nous, on est au milieu des villages, mais j'aimerais bien avoir des équipes, des groupes contacts, tout ça, qui partagent, qui jettent la semence. Alors voilà, il faut imaginer, vous allez faire partie de notre sélection. Vous êtes tous ces paysans, ces agriculteurs, c'est une société très agricole au temps de Jésus. Et donc là, ils connaissent tout ce comment semer leur champ, ils sont des experts. Et donc Jésus, il arrive avec son équipe. Et donc bien sûr, dans l'équipe de Jésus, il y a les douze. Souvent on parle des douze, les hommes. Mais, waouh, dans cette équipe, il y a qui aussi? Marie, Madeleine. Il y a aussi Suzanne et Jeanne. Waouh, je ne sais pas si vous n'avez jamais remarqué ces pas. Et donc voilà, j'imagine Jésus, il arrive, il commence à dire, allez, vous les gars là, vous les paysans, vous connaissez comment semer les champs. Ah ouais. Et donc voilà, prends les semences. Et voilà, on jette la semence. Et les gens sont en train de regarder de Jésus. On ne sème pas comme ça, t'es trop généreux. Tu jettes un peu, tu gaspilles toute cette semence précieuse. Et Jésus dit, voilà, je jette. Et voilà, ça tombe là où tout le monde marche. On s'est écrasé par les pieds des hommes. Et tous les paysans sont bien en vacances. Ça ne sert à rien de semer là où c'est dur. Et Jésus dit, écoute. Écoute un moment, vous pensez que c'est nul de semer là où c'est dur? Allez, j'ai quelqu'un qui veut parler. Allez, Marie, il ne faut pas te cacher, viens, donne ton témoignage. Alors voilà, Marie-Madeleine arrive. C'est vrai que c'est un grand cri dans les foules. Certains mecs derrière commencent à rigoler. Voilà, c'est vrai. Waouh, regarde, quel scandale. Il y a des Pharisiens dans le coin. Voilà, Marie-Madeleine. Il y a Marie-Madeleine dans son équipe. Oh, quel scandale. Alors, Marie est arrivée. Voilà, c'est vrai que vous me connaissez. Vous me connaissez bien. Surtout certains ici, vous me connaissez très bien parce que j'étais moins souvent le long du chemin. J'attendais. Et finalement, toute ma vie, j'ai été le long du chemin. Toute ma vie, j'ai eu une vie le long du chemin. Et dès ma jeune enfance, j'étais écrasé. J'étais écrasé par mon père. J'étais écrasé par tous les hommes que j'ai rencontrés. J'ai cherché l'amour. Et voilà, j'ai retrouvé la dureté. Et parce que j'ai rencontré la dureté, moi qui cherchais que la tendresse de ma vie, je rêvais, comme toutes les jeunes filles, je rêvais de rencontrer le prince. Je voulais être la princesse. Mais malheureusement, j'ai rencontré que des choses dures. Et donc mon petit cœur de princesse est devenu tout dur. Et c'était comme si chaque fois j'étais fouillé aux pieds, fouillé aux pieds. Et dans ma recherche pour la tendresse, je suis tombé dans toutes sortes de relation. Et après, quand j'étais pauvre, j'étais chassé de chez moi. Et je devais vendre mon corps pour vivre. Et chaque fois, je créais une carapace autour de mon cœur pour me protéger. Et donc, cette carapace était là. Et même si les gens disaient, mais Marie, tu as du potentiel, Marie, tu es bien, Marie, tu as quelque chose. Moi, je ne pouvais pas entendre ces mots. Même quand quelquefois j'avais l'espérance d'une relation et quelqu'un me disait, tu sais, je t'aime. Moi, je ne pouvais pas. Ces paroles d'amour ne pénétraient pas mon cœur parce que mon cœur était si endurci. Et même les bonnes choses, quelqu'un ne pouvait pas recevoir même des compliments. Et c'est comme si des oiseaux venaient, comme s'ils volaient tout ce qui était positif dans ma vie. Mais j'étais écrasé. Après, j'avais des mots, des habitudes, j'avais des choses de mort en moi. Et ma vie était détruite. Mais un jour, voilà, j'ai rencontré cet homme Jésus. Et dans sa générosité, il a semé un mot d'amour dans mon cœur. Hein, il n'était pas comme tous les pharisiens là qui étaient avec leur pierre. Ils étaient là pour me condamner, pour me lapider. Mais lui, il m'a ramassé de la poussière. Il m'a dit, moi, je ne te condamne pas dans ma vie. Mais va à mon péché. Et après, il commençait à semer des paroles d'amour dans mon cœur. C'était difficile au début parce que j'avais une grande résistance. Et même, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il y a des moments que j'ai crié, j'ai hurlé ma douleur. Ça sortait de moi. Ça sortait de moi. Mais il avait la patience. Il persistait avec moi. Et il a ouvert mon cœur. Quand il m'a touché, c'est la première fois qu'un homme m'a vraiment touché. Avec un amour de cœur à cœur. Alors voilà, je suis devant vous, c'est vrai, peut-être je suis comme cette semence, le long du chemin dur, écrasé. Mais Dieu, Jésus, il m'a guéri. Et maintenant je vois que je peux envisager la vie avec une nouvelle perspective. Je me sens capable de vivre, je me sens capable de porter du fruit. Donc je vous encourage de recevoir la parole de cet homme, parce que ça va. Oh, merci Marie. Marie, ça va. Waouh! Jésus est tout content. Waouh! Merci Marie. Waouh! Vous voyez ce qui est possible? Vous voyez cette vie transformée, cette vie écrasée, foulée aux pieds des hommes, qui est transformée. Et après, voilà, je vais vous regarder encore, il prend de la semence. Il jette. Et tous les deux, ils disent, ah, mais c'est tombé dans la terre rocheuse. Ça ne va jamais pousser. Ah, il y a le rocher là. On a déjà essayé. Ah, vous pensez que ça ne va pas pousser? Non, ça ne va jamais. Qui croit que ça ne va pas pousser? Quoi? D'accord, vous allez voir. Allez, Suzanne!
Les disciples, elles se cachent. Oh, elles se cachent toujours, cette Suzanne. Allez, Suzanne!
Viens! C'est ton moment, Suzanne. Allez, sois courageuse.
Donc Suzanne arrive.
Ouais, en effet, je m'appelle Suzanne.
C'est vrai, mon nom en hébreu, Suzanne, ça veut dire toute petite. Et en effet, je suis petite et je suis très timide. Et vous ne savez pas ce que ça me coûte pour être devant vous ce matin. Parce que moi, je suis bourré de crainte. Vraiment, en moi, j'ai la crainte. Même quand j'étais petite fille, j'avais peur de la nuit. J'avais peur de la nuit. Et j'avais peur de mes professeurs à l'école, j'avais peur de l'église, j'avais peur des hommes d'autorité, j'avais peur des pas. Et j'ai vécu ma vie dans la crainte. Et même ça a tué même mes rêves, cette crainte. Parce que je commençais quelque chose. Souvent j'avais des projets, j'avais des rêves, je voulais faire des choses. Mais je commençais bien. Je m'étais tout en place et je voyais que j'avais même des talents. Mais quelqu'un disait quelque chose, j'étais très susceptible. Et tout d'un coup, les anciennes craintes. Et je ne pouvais pas prendre racine. Et je n'étais pas encouragé. Dans mon environnement, personne n'a jamais encouragé. Ils m'ont dit, mais Suzanne, t'es nulle. Tu vas jamais réussir. Et j'ai cru toutes ces paroles. Et ces paroles sont devenues comme une pierre dans mon cœur. Ça s'est transformé vraiment dans une phobie. Dans une crainte. Bon, je ne veux pas prendre racine. Donc j'allais de commencement, mais j'ai jamais pu aboutir. J'ai jamais pu finir quelque chose et toujours à cause de ces craintes. Même je voulais vivre une relation avec Yahweh. Je voulais toujours vivre avec lui. Et je faisais, j'allais dans les synagogues, je lisais le Torah et tout ça, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir vraiment peur même de Dieu. J'ai dit, mais il ne peut pas m'accepter. Il ne m'aime pas. Et donc même là, j'avais pas de racines dans mon relation avec Dieu. Mais un jour, j'ai rencontré cet homme Jésus. Il parle aux foules. Et ce qui m'a encouragé avec lui, c'était qu'il accueillait les petits. C'était pas que des religieux, mais il était là avec des lépreux, il était là avec des pauvres. Et j'ai mis une place pour une petite Suzanne comme moi. Alors je suis venu, et j'ai dit, oh mais peut-être je vais avoir peur de lui. Mais dans ses yeux, je voyais l'accueil. Et après j'ai entendu de sa bouche, il disait un jour, l'amour parfait chasse la crainte. Et c'était plus qu'une parole. J'ai vu toute son être faisait passer cet amour en moi. Et dans ce moment-là, c'était comme s'il y avait une grosse pierre qui est sortie de moi. Et j'ai dit, j'ai retrouvé confiance. Tout d'un coup, j'ai dit, voilà, à cause de l'amour de cet homme, je peux renaître, je peux retrouver confiance. Je peux faire un nouveau départ dans ma vie. Et déjà le fait que je vous parle, cet après-midi, c'est un miracle. Parce que j'aurais jamais pu parler en public avant. Et regarde comment je parle. Moi, je m'étonne même moi-même de parler de ces choses. Et je vous dis que vous avez vraiment besoin de suivre cet homme. Si vous avez peur, c'est lui qui peut vous délivrer de vos craintes. Vous n'avez qu'à recevoir cette bonne semence de sa parole et de son amour dans vos cœurs. Allez, je vous encourage. Je dis, ah, ça va, Suzanne, ça va, ils ont compris. Tiens, elle était timide, mais elle est devenue l'évangéliste numéro un de mon équipe. Merci, Suzanne. Oh, je suis content. Jésus, il est content. Il sourit parce qu'il voit cette vie transformée de Suzanne. La crainte. Et il dit à tout le monde qu'il va vous voir, même si ça tombe sur des rochers. Si on enlève les pieds, et après, encore l'assurance. Si Jésus n'a pas de Bible, hein, il n'ouvre pas en Luc chapitre 8, hein, voilà, on va lire. C'est, il est lui-même, il véhicule la parole. Donc il prend l'assurance et il jette encore. Et tout le monde regarde, hein, c'est une société orale aussi. Tout se faisait par des histoires, des gestes et tout ça. Même on dit, oh, mais c'est les rouleaux dans les synagogues, mais les rouleaux étaient dans les synagogues. Jésus ne marchait pas avec des rouleaux. Voilà. Tu vois, c'est là quand il lisait dans la synagogue en Luc, oui, il y avait des rouleaux. Mais quand il était avec les gens, il parlait de la parole
qui était dans son cœur, des paraboles. Heureusement que Luc les a marquées comme ça, on a ça maintenant. Mais il jette sa semence. Et les gens regardent, oh, c'est tombé parmi les ronces, les écharpes. Donc là, ça ne va jamais pousser. Vous pensez que ça ne va pas y pousser? Est-ce que ça ne va pas pousser? Non, ça ne va pas pousser. Pourquoi? Ah, ça va être étouffé. Vous croyez? Allez, il y a une autre personne que je vais vous présenter. Et après, Jeanne est là. Waouh, Jeanne. Et donc, Jeanne, oh, il est bien habillé. Waouh, il a une super robe. Dior, de Jérusalem. Elle dit, voilà, vous avez vu mon chariot garé, c'est à moi. Oh, chariot. Elle dit, voilà, Jeanne, voilà, vous me connaissez sans doute. C'est une personnalité de cette ville. Et vous connaissez surtout mon mari. Hein, il sert même dans la maison d'Hérode. Hein. Et donc là, l'argent, pas le problème. Les richesses, on avait de l'argent. Jamais de problème. Et on avait, vous savez, on faisait des festins avec tous nos amis romains. On mangeait, on faisait la fête, on coulait à flot, les plaisirs, sans limite. 3 jours, 4 jours de fête, on faisait tout s'envoler. Et quel lourd tribut à payer pour tout ça aussi. Surtout pour mon mari. Parce que là, il se réveille au milieu de la nuit avec des soucis. Ah, c'est Hérode. Il était dans toute cette réalité politique, toute cette réalité des affaires. Il n'arrivait plus à dormir, il avait tant de soucis. Il avait tant de soucis et ça tombait sur moi, ça touchait notre couple. Et c'est vrai, je pouvais acheter n'importe quoi, mais je ne pouvais pas acheter la paix. Je ne pouvais pas acheter une relation avec Yahweh. Et après, les plaisirs, mais c'est vrai, les plaisirs, ça se lassait. Ça se lassait de ces plaisirs. Hein, finalement, ça est devenu une sorte d'esclavage pour moi. Et j'avais honte. J'avais honte de tout ce qui se faisait sous l'influence de l'alcool, de ces fêtes. Et ça a étouffé ma vie. Je sais que, avant d'être riche, j'avais quand même une petite relation, une petite flamme dans mon cœur avec Dieu. Mais avec tout ce style de vie, ça a vite étouffé. Ça a étouffé. Et j'avais une forme de religion, c'est vrai. Mon mari était toujours invité pour les grandes fêtes, dans les grands palais, avec les synagogues et tout ça, mais son cœur était complètement éteint. Il n'y avait rien en lui. Et nous, on ne faisait que de se disputer chez nous. C'était terrible, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la vie. Parce qu'on a notre vie, avec Dieu, notre vie ensemble, toutes les relations avaient été étouffées par ses ronces, par ses épines. Les soucis, les richesses, la luxure, le plaisir de la vie, toutes ces choses, ça avait tout écrasé. Il n'y avait plus de place en moi. Ma vie était trop compliquée, j'étais stressé, dopé par le matérialisme. Et je dis, mais quelque chose doit se changer. Même je suis arrivé au bout, je dis voilà, je vais me suicider. C'est parce que je ne peux plus. Ça, c'est étonnant, hein, il y a des pauvres ici, mais ça, on peut avoir des richesses, mais ça n'apporte pas toujours le bonheur. Alors là, j'étais vraiment au bout du rouleau et l'une de mes servantes a dit, il faut voir Jésus. Il faut voir un homme qui s'appelle Jésus. Il dit de bonnes paroles. Et il n'y a que de l'espérance en lui. Donc, un jour, avec toute ma grandeur, je suis allé vers lui. Il m'a regardé, comme il vous regarde aujourd'hui. Et il m'a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et cette parole, c'était comme un couteau. Ça a touché mon cœur, ça a coupé les racines, ça a coupé toutes ces écharpes, toutes ces épines. Ça a coupé. Et quelque chose a commencé à remettre. Oui, chercher d'abord. La priorité de ma vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les plaisirs, c'est Dieu. Et en cherchant d'abord le royaume, j'ai retrouvé
une paix.
J'ai retrouvé une paix dans mon cœur. Et après, j'ai parlé avec mon mari. Et lui aussi, il disait, mais moi, je veux plus vivre cette vie que nous vivons. Et ensemble, on s'est redonné à Yahweh. On a invité Jésus à venir et il nous a expliqué un peu plus. Et maintenant, moi, je veux vraiment soutenir ce ministère. C'est quelque chose qui a donné un sens à ma vie. Et je vois que ma vie qui était stérile avant, maintenant, je peux porter du fruit. Et vous savez, je suis ami avec Marie-Madeleine. Elle est ma meilleure porte. C'est super d'être avec l'équipe de Jésus. Et même Suzanne, on fait un petit groupe là, on partage. On est tellement différents. On est des milieux tellement différents. Mais avec Jésus, il nous a réunis dans un seul but. Et nous, on veut proclamer le règne de notre Messie. Il est le Messie. Jésus-Christ est le roi. Il est le Messie. Il est le Messie. Et vous avez besoin que vous soyez délivrés de tous vos liens pour que vous aussi, que vous puissiez porter du fruit.
Et donc voilà, Jésus dit bon, merci. Merci Jeanne. Et merci aussi pour le soutien. Hein. Ça nous aide. Hein. Parce qu'ils mangent beaucoup, les disciples. Hein.
Ils mangent beaucoup. Et merci Suzanne pour ce que tu fais. Et merci Marie aussi pour ce que tu fais pour nous aider. Et il y a un tas d'autres personnes. J'ai pas le temps parce qu'il n'y a pas que 3 femmes dans mon équipe. Et il y a des centaines là qui me suivent. Il y a aussi les 12, gloire à Dieu. Mais j'ai une équipe très élargie. Et je suis tellement content de voir comment ces gens grandissent et portent du fruit. Alors voilà, vous avez utilisé votre imagination ce matin. C'est une autre manière d'interpréter la parabole du semeur. Mais pour terminer, c'est pour cette rentrée. Je veux vous donner 2 ou 3 clés pour vraiment réussir votre vie. Comme Marie-Madeleine, comme Suzanne, des femmes ordinaires, des femmes à problème, comme Jeanne. Comment réussir votre vie cette année? Pas compliqué, mais c'est réel. Et donc je vais juste reprendre quelques versets. Hein. Si vous regardez la deuxième partie de verset 8, en disant cela, il s'écria. Vous savez, quand Jésus il est dans la foule, il s'écria. Il dit, voilà, écoutez! Il crie, et il dit ceci, il crie, que celui qui a des oreilles entende. On dit, on n'est pas sourd. Que celui qui a des oreilles entende. Allez, il faut entendre. C'est la sagesse crie dans les rues. Faut entendre. Ah, mais j'ai des foules, j'ai des craintes. Ah, je ne connais pas ma vie, mon péché. Entendre. Laisse. Il faut entendre la parole de Dieu. Et quand il disait cela, il pensait les amis. Parce que sur le peuple juif, il y avait comme un voile. Comme un voile. Parce que là, il dit, mais Ézéchiel, Ézéchiel, les prophètes, vous avez proclamé la loi et la parole à ce peuple, mais ils ne vont pas entendre. Ils ne vont pas entendre. Ils citent ce passage. Hein? En voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils ne comprennent point. Donc là, ça, c'était pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour les païens. Parce que là, ils étaient sclérosés par leurs habitudes. Ils étaient sclérosés par leur religion. Et donc là, il fallait un déclic. Marie-Madeleine, Jeanne l'a trouvé, Suzanne l'a trouvé, mais les pharisiens, non. Avec tout ce qu'ils entendaient, ils n'entendaient rien. Et donc c'est pour ça que Jésus, il a crié. Et peut-être aujourd'hui, est-ce que vous avez des oreilles pour vraiment changer cette année, grandir cette année? Ou est-ce que c'est toujours la même chose? Moi, ça m'étonne que quand il m'a pris 10 ans, 15 ans, toujours la même chose, même problème. Mais, allez Seigneur, est-ce que ta parole est efficace ou non? Et donc là, que celui qui a des oreilles pour entendre. Et le premier partie de verset 8,
Ben, ça, c'est aussi très encourageant. Parce qu'il parle de porter du fruit. Et donc, vous avez entendu, il y a des mois, Vision 50. Voilà. Seigneur, je veux voir du fruit dans ton église, dans la région, que les gens viennent dans la salle, c'est bien, mais même s'ils ne viennent pas dans la salle, qu'ils viennent dans votre maison, vous créez un groupe qui est un peu plus cool, un peu... tout ça, ça m'est égal. Quand on est des gens bizarres, étranges, qui prient d'une manière spéciale, tout ça, ça va revenir. Quand on met un filet, vous attrapez toutes sortes de poissons. Et souvent, on dit, oh, mais tac, on veut pas ces gens. Et donc, je dis, mais Seigneur, avec le fruit, on aura des Marie-Madeleine, on aura des Suzanne, on aura des Jeanne, et encore plus, et encore plus. Donc, c'est un défi. Mais le défi, c'est que les cœurs soient changés, que nos cœurs soient changés pour porter du fruit. Et est-ce que c'est juste le cœur de Robert qui doit être changé? Oui, beaucoup. Seigneur, change mon cœur pour que moi, je puisse bénir l'Église, que je puisse vous bénir et que je puisse porter du fruit. Mais si c'est que mon cœur ou le cœur de Sylvain, on n'est pas le one-man show. L'Église, il faut que chaque personne dise que mon cœur, que ma vie porte du fruit cette année. Dans ma famille, dans ma propre relation avec Yahweh. Parce que ça doit commencer là. Comme Jeanne, ma vie était étouffée. Comme Marie-Madeleine, j'étais écrasée. J'étais endurcie par les blessures de la vie. Les blessures profondes, sept démons que Jésus chassait de son cœur. Suzanne, bourrée de crainte. Vous ne pouvez jamais rien dire, jamais rien faire. Mais l'amour parfait de Jésus l'a libérée. Elle n'est pas restée avec ses grosses pierres. Et donc, laisse le Seigneur changer nos cœurs. Et donc, le début de verset 8, là. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Oh Seigneur, que mon cœur soit la bonne terre. Et quand elle poussa, et là, c'est ça qui m'a encouragé, elle donna du fruit aux 50. Non. Au centuple. Hein, c'est quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, waouh, peut-être que je dois dire vision 100 au lieu de vision 50. Hein, je sais pas. Vision 100, vision 50. Bon, déjà avec vision 50, je suis tellement étiré, tellement gêné de croire. Je dis, oh là, Seigneur, je ne connais pas beaucoup d'églises de la région qui ont même grandi avec 10 dans une année. Hein, c'est donc 50. C'est... On verra. Mais tout est possible quand le cœur est transformé par Jésus, n'est-ce pas? C'est ça. Tout est possible quand on laisse la parole de Dieu nous guérir. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible quand Dieu travaille ici. Oh, Seigneur, travaille là, travaille ici. Ça, c'est le premier champ missionnaire. Le premier champ missionnaire, c'est votre cœur. Et le premier champ missionnaire pour cette rentrée, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Que celui qui a des oreilles entende. Et ça peut porter du fruit. Et pour terminer, verset 15. Hein, c'est, si vous oubliez tout le reste, vous gardez verset 15. Verset 15. Parce qu'il y a vraiment tout un encouragement pour nos vies. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Donc là, la fécondité vient de la parole. Entendre la parole prêchée même aujourd'hui, même en vie, la parabole du semeur. Mais entendre la parole. Mais avec quel cœur? Un cœur blessé, foulé aux pieds des hommes, un cœur incapable de prendre racine. Un cœur étouffé par le péché, les plaisirs, les richesses, les soucis de la vie. Non, là, ça va. Voilà, Seigneur, change mon cœur. Parce qu'on peut venir 10 ans à l'église, mais si on n'est pas, si le cœur ne devient pas un cœur, une bonne terre, il n'y a pas de fruit.
Mais ceux qui entendent la parole avec un cœur de choses, bon et honnête. Sois honnête avec Dieu. Il a déjà vu tout. Mais sois honnête. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Tu sais, il y a les gens, ils sont que grâce. Ils disent, voilà, tout le monde est gentil, tout le monde est bon, et le péché n'est pas grave pour eux. Voilà, vous pouvez vivre quand vous voulez. La grâce. C'est vrai, il y a la grâce. Et il y a d'autres personnes qui vivent que dans la vérité. Oh, je vous dis, les quatre vérités, tac, 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 et on est condamné, jugé tout le temps. Et on va entre l'extrême grâce et l'extrême vérité, on se trouve où? Vous choisissez votre église, église de grâce, voilà. Le grand cœur qui excuse tout. Oh, d'accord. Ou vous avez l'église rigueur, voilà, on veut la vérité de la parole. Mais moi, il y a les deux en Jésus, d'accord? Il fait l'impossible, il y a la grâce, mais il y a la vérité. Il faut vivre dans la vérité. La vérité de la sainteté, la vérité de la rigueur, de la sainteté. Le Saint-Esprit, pas juste l'Esprit, mais le Saint-Esprit, l'intimité, d'être tout proche d'un cœur qui est trois fois saint. La vérité d'aimer le frère, de pardonner, la vérité de vivre honnêtement. Mais il y a la grâce, parce que personne n'est parfait. Et quand on tombe, comme Jean dit, je vous écris, afin que vous ne péchiez pas. C'était le but de Jean. Mais si quelqu'un a péché, parce qu'il est réaliste, nous avons un avocat auprès du Père. Ce n'est pas la vie normale du chrétien d'être toujours lié par le péché. C'est si tu pèches. Si tu pèches, il y a une option. C'est la grâce. Il y a la grâce. Et donc un cœur bon et honnête. Et ce cœur qui est bon et honnête va retenir la parole. C'était le problème des ronces, c'était le problème des pierres, c'était le problème d'une terre trop endurcie. Vous ne pouvez pas retenir la parole. Et donc, question, est-ce que votre cœur est capable de retenir la parole de Dieu? Est-ce que ça peut faire pousser le fruit de l'esprit, le fruit de toutes ces qualités en Galates, l'amour surtout, la patience, persévérance, tout le reste? Mais que le Saint-Esprit vous guérisse. Et c'est Jésus lui-même qui touche nos cœurs. C'est de venir à Jésus. Bon, il est invisible maintenant. Mais il est très visible dans sa parole, dans la parole, dans sa Bible, dans la création. Il y a trois livres. Il y a le livre de la création, il y a le livre de la vie. Il y a le livre, bien sûr, là, l'Écriture. Mais que vraiment que nous puissions laisser Jésus-Christ travaillez mon cœur cette année. Seigneur, que j'ai un cœur bon et honnête. Donne-moi ce cœur bon et honnête qui est un cœur fécond, qui est un cœur qui peut vraiment produire du fruit. Elle retienne, ce cœur retient la parole et porte du fruit par la persévérance. Est-ce que c'est le bâton magique? Maintenant, je prie. Jésus, prie pour nous. Comme tu as prié pour d'accord. Moi, on n'a que le temps maintenant. Mais c'est la persévérance aussi. Moi, je suis toujours en route avec Jésus. Je suis toujours en route pour qu'il me donne un cœur bon et honnête. Mais gloire à Dieu pour ce que j'ai déjà reçu. Peut-être moi, je me trouve loin. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais aujourd'hui, saisissez l'opportunité de laisser Jésus-Christ toucher votre cœur. Peut-être c'est le début d'un travail. Peut-être que vous êtes à 10%, gloire à Dieu. Marie-Madeleine, elle a commencé à 10%. Suzanne, elle était toujours en route. C'est ça la vie de disciple. C'est ça la vie de disciple. On peut s'encourager aussi mutuellement pour avoir ce cœur fécond. Et quand l'Église possède un cœur fécond, nous allons porter du fruit. Parce que ça va jaillir sur d'autres personnes. Alors voilà, je vais terminer, je vais prier. Donc, c'est peut-être une prière pour la rentrée. Seigneur, travaille mon cœur. Peut-être ce matin, vous êtes là comme Marie-Madeleine. Peut-être vous êtes là comme Suzanne. Peut-être vous êtes là comme Jeanne. Ou peut-être vous avez votre propre situation qui n'est pas décrite par ce que j'ai dit.
Mais l'important, c'est de dire, Seigneur, on peut juste faire une prière. Je veux. Je veux, Seigneur. Je veux que tu transformes mon cœur et je veux persévérer dans cette parole cette année. Et donc, Seigneur, nous voici devant toi. Merci pour ta parole. Merci pour cette nuée de témoins qui nous entoure. Et merci pour Marie-Madeleine. Merci pour Jeanne. Merci pour petite Suzanne. Merci pour ces dames qui étaient dans l'équipe de Jésus, qui étaient des disciples de Jésus. Merci pour tout ce qu'elles nous enseignent. Merci, je suis sûr que Jésus était inspiré par ces dames, même dans ses paroles. Et donc, Seigneur, merci. Seigneur, tu vois là où on a été foulé au pied, endurci par des blessures profondes de la vie. Comment ça, guérir ces blessures? Seigneur, tu vois là où on a des phobies, des craintes qui assassinent nos rêves, qui nous empêchent de grandir. Seigneur, que l'amour parfait, que ton amour parfait chasse la crainte tout le long de cette année. Qu'on ne soit pas paralysé cette année, mais qu'on puisse être libéré comme une colombe qui vole dans l'air avec toi, Jésus. Rempli de courage, rempli de victoire. Et Seigneur, tu vois les soucis. On est dans une société de soucis multipliés par l'internet, multipliés par la communication. Tu vois nos soucis. Tu vois des problèmes d'argent. Tu vois, Seigneur, même des plaisirs. On peut aller facilement dans les plaisirs. Seigneur, que tu sois sous notre désir. Et Seigneur, aide-nous à chercher d'abord ton royaume, Seigneur. Travaille mon cœur, Seigneur. Donne-moi un cœur bon et honnête qui porte du fruit pour toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Bénis chaque personne ici, Seigneur. Tu vois leurs besoins. Seigneur, c'est... sois vraiment très proche cette semaine. Tu vois tout ce qu'on a déjà, les sujets qu'on a déjà pris. Et Seigneur, qu'on soit d'accord d'aller sur ton terrain, Seigneur, d'être avec toi. Donc, vraiment, Seigneur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen.